J'aurais toujours beaucoup de choses à dire encore sur le point de vue de l'amitié. Au moins, comprenez que dans le gouvernement divin, sûrement que l'amitié joue un rôle très important. Et que le sens moral diminuant, le sens moral a peu d'emprise sur les jeunes, alors que l'amitié demeure encore très forte. Il faut comprendre que pour redonner le sens moral, il faut, je crois, aujourd'hui reprendre par le point de vue de l'amitié. Il y aurait sûrement là, au point de vue éducatif, quelque chose de très important à faire. Vous voyez, je parle d'un point de vue très très pratique. Quand pratiquement les jeunes pères ont leur flanc, ou tout simplement quand ils font les 2 ans d'exercice apostolique, ils ont toujours des leçons de catéchisme. Et les gosses s'ennuient. Il n'y a rien de plus terrible que d'enseigner en faisant dormir les gens. D'enseigner et d'ennuyer. Mais ennuyer, c'est pas drôle. S'ennuyer, c'est pas drôle de s'ennuyer. Et d'être cause d'ennui, c'est 2 fois, c'est au carré. C'est au carré l'ennui. Alors, c'est vraiment charge. Alors, on devrait, je sais qu'ils le font, mais on devrait chercher comment on peut remplacer cette vieille histoire qui avait son sens quand les familles étaient chrétiennes. Parce que il y avait un prolongement par rapport à la famille. Mais quand il n'y a pas ce prolongement, il faut donc chercher quelque chose qui est plus radical pour redonner le sens des choses. Or, le plus radical, c'est toujours, au point de vue moral, au point de vue chrétien, c'est toujours la finalité. Rien n'est plus radical que la finalité. Et c'est du reste très significatif, c'est que quand on n'a plus le sens de la finalité à cause du positivisme qui a supprimé le sens de la finalité, on se rabat sur le fondement. C'est très curieux. Le fondement est quelque chose qu'on peut toucher. La finalité, on ne la touche pas. Alors, le fondement a quelque chose de final, parce que c'est quelque chose de fondamental. Il y a toujours un lien entre les deux. C'est l'aspect matériel de la fin. Et qui doit pouvoir permettre de renouveler et de redécouvrir la fin. Alors, il y a là un problème pratique, actuel, auquel je crois que nous devons y réfléchir, parce que c'est le gros problème de l'éducation. Le sens moral ayant échappé, Et c'est tout à fait normal, puisqu'il n'y a plus beaucoup de vraies familles auxquelles la mère enseigne à l'enfant ce qui est bien et ce qui est mal. Or, c'est un rôle maternel, hein, ça. Et ce rôle maternel n'existant plus, il faut se dire comment le remplacer. Évidemment, ce n'est pas en donnant le biberon. Non. Ça ne va pas copier. On doit réinventer pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer ça. L'éveil, et ce qu'on appelait dans le temps la Sainte Thérèse. La Sainte Thérèse, c'était ce principe pratique en nous, il faut faire le bien et éviter le mal. Donc la distinction du bien et du mal. La distinction du bien et du mal s'estompe, disparaît. Alors, on doit la rattraper. Et comment la rattraper ? Et je crois alors que c'est l'amitié. En voyant que l'amitié qui touche la finalité, c'est notre première découverte de la finalité. L'amitié fait appel à des choses radicales qui sont présupposées. Les choses radicales que l'amitié fait appel, c'est le dépassement de l'égoïsme, le sens de ce qui est à moi et de ce qui est à toi, le sens de la vérité et du mensonge. Vous voyez ? Et alors, ce serait à essayer de voir comment, par l'amitié, on peut redonner un sens moral. Ça, c'est d'ordre philosophique. Hein. C'est pas d'ordre théologique, c'est d'ordre philosophique. On doit faire la même chose par rapport à la théologie, par rapport à la foi, mais c'est très différent. On doit faire la même chose. C'est que le point de vue, l'éveil à la vie chrétienne, chez des petits qui ont été baptisés, se fait par la mère. Quand il n'y a plus cet élément maternel, alors il y a un vide. Et vous ne pouvez pas sauter au-dessus. Il n'y aurait pas de fondation. Il y aurait quelque chose qui manquerait. Donc il faut qu'on retrouve au point de vue surnaturel, la possibilité de remplacer ça. C'est pas directement la fonction du cours. Mais la fonction du cours, c'est de montrer qu'il existe un problème. Et ce problème, c'est le nôtre. Hein. C'est là où la philosophie touche au point de vue pratique. Point de vue éducatif, je ne peux pas éduquer sans philosophie. Alors les éducateurs, ils font de la psychologie, ils ne font pas de philosophie. Et alors c'est pour ça que ça, c'est toujours à peu près, ça marche. On regarde selon l'efficacité, on dit « Ah, telle méthode, ça marche ». Bon, ça marche un certain temps, mais comme ce n'est pas fondé sur la philosophie, et donc sur le point de vue de la finalité, ça ne va pas durer. Quand c'est nouveau, le nouveau a toujours un petit charme particulier et une attraction momentanée. Ce qui fait que c'est comme ça. Les produits économiques, hein, la propagande. C'est fait comme ça. Montrer que c'est nouveau. Que tout ce qui a été fait avant, c'est pas grand-chose. Mais là, il y a quelque chose de merveilleux. Ce nouveau produit est excellent. Tous les autres produits précédents ne faisaient pas ça. Le passage de l'amitié à la sagesse. Entre deux, il y a l'art. Au plan philosophique, au point de vue du gouvernement divin, il faut se poser la question. Est-ce que Dieu donne un secours spécial pour l'artiste ? Pour tous les arts. Est-ce que l'art est métaxu, intermédiaire, entre l'amitié et la sagesse ? Il faut au moins se poser la question. Alors, il faut d'abord nous rappeler que l'art est une réalité humaine. Les anges ne sont pas des artistes. C'est pour ça que la vie contemplative pure n'aide pas toujours l'art. Regardez. L'art d'une carmélite. Il est très gentil sur les petites images. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Alors, vous avez cette chose très curieuse, c'est que vous voyez qu'elles sont très développées du côté affectif, l'affectivité a une limpidité très grande pureté et une très grande intensité, une très grande force, mais que du côté théologique, intellectuel, et souvent pas très développé. C'était surtout ce qui existait il y a 50 ans. Ça. Maintenant, c'est un petit peu différent. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait. Et on a une conception de la vie contemplative comme une super morale, une quintessence de la morale. Et le point de vue moral était très fort. Quand on demandait à une supérieure si c'était une bonne religieuse, elle vous répondait, elle fait la règle. Mais elle est parfaite dans l'application de la règle. Oui. Donc, il y avait la décoration morale. Et on se demandait, est-elle intelligente ? Ça ne se posait pas. C'était pas dans les catégories morales. C'est très curieux et c'est très intéressant de voir comme phénomène. Et la morale a craqué. On peut dire que depuis 50 ans, la morale craque, elle diminue. Alors, on maintient certaines règles de morale, on ne sait pas trop sur quoi ça s'appuie. C'est très étonnant à voir la transformation qui s'est faite en 50 ans au point de vue moral. Alors, aujourd'hui, il y a les ruines, il y a des pommes mûres ou des colonnes cassées. Et on se demande comment on peut reprendre ça. C'est sûr. Et je crois que c'est le grand intérêt de ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est obligé de repenser cette question de l'éducation chrétienne. De repenser, de comprendre. Alors, on se pose la question, quelle est la place de l'art dans l'éducation? Les Grecs pensaient que la première éducation devait toujours être artistique et en même temps la gymnastique, le corps. On éduquait l'âme par l'art et on éduquait le corps par la gymnastique. Et on mettait la morale qu'après. C'est très significatif, ça, quand on reprend la philosophie chez Platon et chez Aristote. C'est que le point de vue art est quelque chose de premier. Quand vous regardez la scolastique, on ne parle pas de l'art. Il y a un grand trou. On parle ni de l'art, ni de l'amitié. Et on est sous l'influence de Kant. Kant a une très grosse influence là-dessus. Les néo-kantiens, on a vu des exemples de néo-kantiens. Et on voit très bien que le néo-kantien, c'est justement la reprise de Kant en disant qu'il faut le reprendre. Et ça ne mord pas très bien. Alors, on prend actuellement conscience de cela. Et on comprend qu'il faut peut-être qu'au point de vue philosophique, on reprenne tout un peu à la manière des Grecs, qu'on remette l'art à sa place. Parce que la morale, se développant sans l'art, risque d'être purement ascétique. Alors, ce sont des cadavres. Le cadavre, il n'y a plus que les ossements. Et tous les ossements, ils sont. Et il y a des grands trous. C'est très aéré, un cadavre. Et au fond, la scolastique, ça venait comme ça. Ça venait le cadavre de quelque chose de très beau, qui avait été très grand. Saint Thomas, les cathédrales, c'est très beau, les cadavres. Alors, on voit la nécessité de reprendre d'une façon beaucoup plus profonde l'art et la gymnastique. C'est curieux. Il y a une reprise très, très nettement de tout cela. C'est le sport et l'art. Pour avoir une base de la point de vue moral. Bon, ça, c'est intéressant à constater. Et pour nous, c'est très important de comprendre que notre philosophie éthique ne doit absolument pas oublier le développement de l'art et le développement sportif. C'est, je crois, nécessaire pour qu'il n'y ait pas que le squelette. Il y a quelque chose de plus réaliste, de plus vrai. Quand vous regardez Kant, c'est très scolastique. Hein. L'a priori Kant, c'est très... Il n'y a rien de plus scolastique que ça. Quand vous regardez la scolastique, c'était aussi... On matait le squelette et on le nettoyait. Je me souviens, moi, la vue, ça faisait un fantasme. Alors, quand c'est des fantasmes, un vieux château, il n'y avait plus que la reine-mère. Et à chaque étage, à chaque marche, il y avait... l'armure, debout, il n'y avait personne dedans, il y avait l'armure, à chaque marche. Et ça faisait penser, justement, ça, au fond, la scolastique, il n'y a plus de nerfs, mais il y a les nœuds, on monte les nœuds. Tout est présent. Je crois qu'il y a quelque chose de très grand qui se fait depuis 50 ans. Il y a quelque chose de très grand qui se fait, c'est que on sent qu'on ne peut pas rester là. Et on essaie de reprendre de façon multiple et diverse. De sorte qu'on doit se poser la question, quelle est la place de l'art dans la formation d'une personne? Et se poser la question, quelle est dans le gouvernement divin, puisque Dieu nous aime comme un père, il ne veut pas que ses fils soient squelettes. Il veut qu'ils soient des hommes. Et l'apôtre doit être un homme. Jésus est parfaitement homme. Mais évidemment, quand vous voyez l'évangile, vous ne voyez pas beaucoup Jésus comme apprenant tel art. Il a été charpentier. Alors, on voit ce que c'est que d'être charpentier aujourd'hui. Saint-Joseph a régi tout ça. Et on lui demande de régir et de continuer de régir tout ça. Joseph, oui, charpentier. Jésus, parce que nous le voyons dans la vie apostolique. Mais si nous le voyons dans la vie Nazareth, il a été sûrement un excellent charpentier. Là, moines ont toujours eu cette dimension. Plus ou moins vivante. Et on a senti la nécessité de reprendre cela pour certains. Je dirais tous, s'ils l'ont déjà, peuvent continuer, parce que c'est nécessaire. Aujourd'hui, on sent très bien que le domaine artistique, artisanal, maintient dans l'homme quelque chose de grand. Vous voyez la différence entre un artiste, une artiste, et un commerçant. Et un commerçant, il peut aller dans des degrés très élevés. Mais un homme dans l'économie pure. Et le travail a été annexé très fort de ce côté-là. Il a perdu son sens. On essaie de travailler le moins possible. Tellement le travail est exactement comme la leçon de catéchisme pour un enfant de 12 ans. Dans le milieu, diminuons le plus possible le sens du travail. Alors que si on comprend que le travail fait partie essentielle de l'homme et que l'homme se développe grâce au travail, un homme qui ne sait pas travailler, ni le travail manuel, ni le travail intellectuel, il manque quelque chose. Vous voyez, au fond, on est en train de retrouver actuellement le sens de l'art. On retrouve le sens du travail. On le sent bien. Mais là, chez certains, ce n'est pas encore descendu. Ça descend lentement. Le paysan a gardé le sens du travail. Je crois que c'est quelque chose d'important pour nous de reprendre, comme Aristote l'avait fait, le point de départ de la pensée philosophique, c'est toujours l'art. Le point de départ de la pensée philosophique, c'est l'art. L'art, en le prenant au sens très vaste, le travail organique, le travail pensé, c'est l'artiste qui travaille. Le travail n'est humain que quand il est artiste, artistique. Alors il devient humain. On donne au travail une signification beaucoup plus profonde. On lui fait comprendre pourquoi nous travaillons. La finalité, les manières, pas les méthodes séparées du travail. Aujourd'hui, on fait des méthodes séparées du travail. C'est le travail qui doit devenir plus qualitatif. La logique est un art, et c'est un art à l'égard de la pensée. La logique doit exister au point de départ. Il est évident qu'elle est dépassée par la contemplation. on se pose la question. Quelle est la place du gouvernement divin dans le point de vue du travail, dans le point de vue de l'art artisanal, dans le point de vue de l'art tout court? Il y a une chose qui est sûre, c'est que le travail est propre à l'homme. Si je regarde au point de vue théologique, les anges ne travaillent pas. Les anges contemplent. Dans les anges, il n'y a pas d'amour d'amitié. Il n'y a pas de travail, pas d'art. Donc, l'art est typiquement humain. Parce que l'âme informe le corps. Et le travail, c'est l'âme spirituelle qui informe le corps. L'âme spirituelle qui informe le corps exige la gymnastique. L'âme qui informe le corps exige le travail artisanal. Tout de suite, on a construit sa petite maison. On a construit sa hutte. On a construit le lieu où on pouvait vivre. Donc, c'est ça qu'il faut se rappeler et qu'il faut, au point de vue philosophique, revenir toujours à l'origine du travail. Au fond, le travail permet à l'âme de transformer la matière, d'animer la matière. C'est donc un prolongement de l'âme qui informe le corps. Et quand on lutte contre le travail, quand on abandonne le travail, on retourne nécessairement à une attitude tout à fait primitive. On laisse le corps à lui-même, pour lui-même, sans vouloir l'informer par l'âme. On ne voit pas suffisamment que le travail permet à l'âme de s'étendre, de prendre possession de ce petit monde qui est notre corps. Donc, il faut se rappeler ça comme au point de départ. Si le travail est typiquement humain, il relève donc de la nature de l'homme. Et s'il relève de la nature de l'homme, il entre dans les lois du gouvernement divin, général. Et c'est pour cela, au fond, ne pas éduquer l'homme au travail, c'est nécessairement une régression dans l'ordre naturel. C'est très élémentaire, hein, le travail. C'est tout à fait premier. Et donc, et quand on le supprime, quand on tend à le supprimer, quand on donne à l'homme une espèce de dégoût du travail, pas d'intérêt du travail, on coopère à faire que la nature humaine ne soit plus ce qu'elle doit être. On coopère donc à un abrutissement de l'homme. C'est très grave. Hein. Parce que le travail, dans ce qu'il a de premier tout à fait, c'est coopérer à l'unité de l'âme et du corps. C'est coopérer à prolonger cette volonté de Dieu, mystérieuse du reste, très mystérieuse, c'est quand même extrêmement curieux d'avoir uni l'esprit et la matière. Et il peut y avoir dans l'homme une révolte très fondamentale en disant « je suis esprit et je n'ai rien à faire avec la matière ». Ça existe dans le dégoût du corps. Ça veut bien, il y a des maladies qui font que l'homme a un dégoût de son corps et ne mange plus, ou le moins possible, ne travaille plus, ou le moins possible. Parce qu'au fond, tout cela, c'est coopérer à l'union de l'âme et du corps. Alors, quand il s'agit de l'union de l'âme et du corps, il s'agit de la nature, pas de la personne, hein, de la nature. Il s'agit donc de quelque chose de fondamental. Je crois qu'il faut se rappeler ça, que l'art est quelque chose de fondamental. Et que la suppression de l'art, ça va dans le prolongement de la dualité entre âme et corps. Et c'est coopérer à augmenter cette dualité. Il y a quelque chose de très pénible. Très pénible de voir quelqu'un qui n'aime pas son corps. Ça fait partie des devoirs de l'homme d'aimer son corps. Et même au plan surnaturel, on doit aimer Dieu, aimer le prochain, aimer son corps. Alors, je crois que c'est important de saisir qu'il y a une espèce d'idéalisme faux qui coopère à cette division de l'âme et du corps. Donc, dans le gouvernement de Dieu sur nous, le gouvernement radical, au point de vue naturel, Dieu n'intervient pas directement, mais il y a quelque chose de très fondamental, c'est l'union de l'âme et du corps. Et nous coopérons à cette union par le travail. Nous n'y pensons pas beaucoup, mais il y en a qui pensent pour nous. Hein. Je suis persuadé que l'idéalisme, au point de vue philosophique, n'est pas de Dieu. L'idéalisme, c'est au fond lutter contre l'union de l'âme et du corps. Pour que, à la place, se mette une distinction entre le corps et l'âme, on met une séparation. Et on lutte contre la vision même du Créateur pour l'âme et le corps. Mais le rôle premier de la mère, le rôle maternel, c'est du côté du corps. La gestation, c'est bien évident. Et après, la première éducation, c'est net. C'est l'aliment. Et l'aliment, vous voyez, l'art intervient. La cuisine. C'est un art pour permettre que l'homme puisse manger à son goût. Et donc, on doit toujours faire une grande attention à la cuisine. C'est une chose fondamentale. Pas faire attention du tout à la cuisine, c'est l'idéalisme. Donc ce n'est pas aller dans le gouvernement divin. Le gouvernement divin maintient l'union de l'âme et du corps. Alors évidemment, il ne faut pas tomber dans l'exagération. Le culte du corps, le culte de la cuisine, le culte de l'alimentation, mais justement, il y a une première personne. Alors, vous voyez, c'est la nature, hein, c'est pas la personne. Alors, dans une civilisation comme la nôtre, qui est une civilisation extrêmement personnelle, ça va être. Tout se fait par des conserves. Et au fond, fait par des conserves, c'est parce qu'on ne veut pas attacher d'importance à l'union de l'âme et du corps. Si on cherche la raison, tout ça est téléguidé, beaucoup plus que nous pensons, n'est-ce pas ? Et le philosophe doit essayer de réfléchir là-dessus. Or, réfléchir sur la question de l'art, il faut voir d'abord l'art, les arts artisanales, les premiers, et ars coadjuvans natura, l'expression très, très belle de saint Thomas, ars coadjuvans natura, un art qui vient aider la nature. Qui vient aider la nature, il y a la médecine. Quand la nature est malade, ars coadjuvans natura. Alors, le secours de Dieu, le gouvernement de Dieu sur l'art artisanal est lié à Dieu qui nous demande de coopérer avec lui. Opération très simple pour que la nature humaine se développe normalement. Il n'y a donc pas de concours spécial de Dieu, c'est le concours de Dieu sur la nature. Alors, je vous ai déjà dit qu'il faut bien distinguer le concours de Dieu sur la nature et le concours de Dieu sur la personne. Et c'est parce que, justement, la tentation moderne depuis Descartes, c'est de ne regarder que la personne. Et vis-à-vis de la nature, on boude. Ça va très loin, ça. Parce que on veut même arriver à transformer le corps humain. Aujourd'hui, donc, parce qu'on ne voit plus que la personne, il y a une action souterraine. Je dis bien une action souterraine. Qui relève d'une idéologie. Alors, au point de vue philosophique, cette erreur, cet idéalisme, provient tout simplement de l'exaltation de la raison, de l'intelligence, de l'esprit. Point de vue théologique, je dis, c'est l'influence du démon. Le démon est furieux de l'harmonie entre l'âme et le corps. Le démon n'aime pas l'harmonie entre l'âme et le corps. Et il veut l'exaltation de l'esprit contre le corps. Comme il veut l'exaltation du corps contre l'esprit. Nous aimons, on n'aime pas l'harmonie voulue par Dieu de l'âme et du corps. Et nous devons toujours nous rappeler ça. Que l'harmonie de l'âme et du corps est une chose voulue par Dieu. Alors évidemment, vous pouvez jeûner comme des ascètes dans le carême. Mais si vous exagérez, c'est pas de Dieu. C'est pas du Christ. Ce n'est pas de Marie. Marie est là pour vous rappeler que jeûner très très bien, mais votre devoir d'État foncier fondamental est de maintenir un équilibre entre votre esprit et votre corps, entre votre âme surtout et votre corps. Vous voyez, je crois que c'est quand même quelque chose de très important, cela. Parce que nous vivons de fait dans un monde qui a exalté terriblement l'esprit et qui, par le fait même, exalte aussi, il y a le 7 contre 1, le corps contre l'esprit. Et que sûrement, la conduite naturelle de Dieu sur nous doit être rappelée philosophiquement. Comme une chose nécessaire, comme une chose voulue par Dieu. Dieu a fait un chef-d'œuvre de dire l'esprit et le corps. Dieu confie ce chef-d'œuvre à l'homme. C'est sûr. Dieu veut que ce chef-d'œuvre soit maintenu et gardé par Dieu. Donc, dans le gouvernement divin, joue ce point de vue de l'art qui maintient dans l'éducation, dans la formation de l'homme, l'équilibre entre l'esprit et la matière. Alors, on verra la fois prochaine quand il s'agit non plus de l'art artisanal et du travail, mais quand il s'agit de ce qu'on appelle l'art, les beaux-arts. Est-ce qu'on peut philosophiquement préciser